de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama. Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama. Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, l'année est presque finie hein, pour Cinérama, il reste encore bien quelques émissions. Nous allons parler des films qui sont sortis pour les fêtes de Noël. Alors il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais tu as peut-être...
Le plus gros cadeau de Noël de l'année, c'est Avatar de feu et de cendre de toujours James Cameron.
Et oui, et ça donnera l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie du réalisateur canadien. Nous parlerons aussi alors, très rapidement d'un film de Rob Reiner.
Oui, qui nous a quittés tragiquement il y a quelques jours et dont ce dernier film qui était sorti en VOD, justement connaît un gros boom à cause de ce fait divers tragique, c'est Spinal Tap 2, la suite de son film culte.
Et puis il sera question aussi de livres, puisque vous n'avez peut-être pas fini vos achats de Noël. Donc je vous parlerai de deux livres, un sur le tournage des Dents de la Mer et puis un autre sur l'histoire du cinéma. Et on aura même le plaisir d'entendre son autrice. Mais nous allons commencer avec le Troisième Reich qui s'effondre en 1945. Et c'est sur la petite île d'Amrun que se joue le parcours initiatique d'un jeune garçon. Nous parlons d'Une enfance allemande, le dernier film de Fatih Akin.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
La fin de la guerre en France, de la Seconde Guerre. Hein. On connaît bien, il y a eu beaucoup de longs métrages qui nous ont présenté cette période, mais que sait-on de la vie en Allemagne durant la même période? Eh bien, peu de choses. Hein. Alors, déjà parce que peu de films allemands viennent sur nos écrans, et probablement que ce n'est pas non plus un sujet souvent abordé outre-Rhin. Alors c'est pourtant celui-ci qui a décidé d'embrasser Fatih Akin pour son dernier long métrage, et la perspective est tout autre, hein, car l'Allemagne a capitulé en France. Ce film porte le titre Une enfance allemande, Île d'Amrun, 1945. C'est un peu long. Dans sa version originale, c'est tout simplement Amrun, du nom d'une île de l'archipel allemand des îles Frisson septentrionales. C'est merveilleux comme titre d'archipel. C'est plus énigmatique, évidemment, mais à la fois très précis, car c'est effectivement sur cette petite île battue par les vents du Nord que se déroule toute l'intrigue du film.
Rüsten auf 50 Kilometer vor Berlin.
Du hast tout mein Titler sein Skit, krieg du an.
Nous sommes donc au printemps 1945 sur cette île d'Amrum au large de l'Allemagne. Alors on ne le sait pas tout de suite, mais ce sont les derniers jours donc de la guerre. S'il flotte un drapeau nazi, on imagine peu la population concernée par le sort de la guerre et du Troisième Reich. Si ce n'est la mère de Nanning, le jeune garçon de 12 ans dont on suit l'histoire. Alors c'est son regard qui va nous permettre d'appréhender cette période. Sa mère a fui en bourg pour se réfugier dans la maison de villégiature, donc sur cette petite île. Étant proche du gouvernement nazi, ses enfants et elle bénéficient de quelques privilèges comme la nourriture, même si le jeune garçon doit trimer de toutes parts. Hein. Lui, l'enfant de la ville, et c'est ainsi qu'il est vu avant même d'être un membre, malgré lui, des jeunesses nazies, travaille au champ ou va aider à chasser le phoque. Mais sa mère, par son orientation politique, son patriotisme, autant que son aveuglement, lui crée quelques soucis. Hein. D'une part, elle le fait passer pour une balance, et d'autre part, déprimée par la défaite de l'Allemagne qui se profile, elle refuse de s'alimenter, prétextant ne vouloir que du pain blanc, du beurre et du miel. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une mère, hein? Le garçon va donc tout laisser tomber pour donner ce cadeau à sa mère, un cadeau pas facile à trouver en temps de guerre. Et durant cette mission, qui consiste donc à collecter des denrées ou de l'argent, c'est selon, hein, nous allons saisir cette époque où les gens sentent déjà confusément que tout est fichu ou pas loin. Disons qu'il y a les proches du parti qui sentent que le vent va tourner, leurs privilèges également, et puis les autres qui veulent en finir avec la guerre. D'ailleurs, l'île accueille un contingent d'immigrés polonais, des immigrés qui sont semblables à Nanning pour ses camarades de classe. La problématique identitaire est posée, et c'est, bon, cette problématique identitaire arrive souvent dans les films de Fatih Akin. Underneath the glow, our love starts to grow. Beneath the stars we made, our melody sweet.
stars in the night, light to our flight, your smile shines so bright, together delight, tenderness binds, forever divine,
Fatih Akin a une très belle manière d'organiser son récit. Hein. Il utilise tous les moyens du cinéma, y compris le procédé de Nuit américaine, pour nous plonger dans l'atmosphère plutôt rude de l'île de Amroun. De nombreux plans nous montrent l'environnement, la nature, je vous l'ai dit, hein, battue par les vents, et puis d'une certaine manière, eh bien, le temps qui passe et les hommes et femmes qui l'occupent. Entre âpreté et poésie, les décors de l'île constituent eh bien, la toile de fond idéale pour illustrer le cheminement intérieur de ce jeune garçon de 12 ans. Une enfance allemande, Île d'Amroum, 1945, ça y est, j'ai dit le titre en français, de Fatih Akin, est un récit d'apprentissage qui voit le monde de ce garçon s'effondrer, lui qui n'attend qu'une chose finalement de la fin de la guerre, hein, qu'elle lui ramène son père. Questionnant l'exil autant que les illusions de la jeunesse et l'appréhension d'un nouveau monde, ce film est vraiment remarquable et d'une douceur, voilà, c'est peut-être même ce qui prime, c'est au-delà de ce qu'il raconte de cette période, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une certaine forme de douceur et de cruauté en même temps. Vous pouvez le voir en salle depuis le 24 décembre. James Cameron nous rouvre à nouveau les portes de Pandora pour un voyage qui s'annonce plus brûlant que jamais. Nous parlons évidemment d'Avatar.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
On sait qu'il est difficile de faire une bonne suite, un bon numéro 2, mais on peut oublier parfois ce problème de riche du troisième opus lorsque le succès est au rendez-vous, et ce même si vous aviez annoncé que le récit ne s'arrêterait pas là. C'est donc le principal défi, un de plus, qui se pose pour James Cameron. Il avait débuté sa carrière en signant la suite d'un film que le producteur lui avait volé, Piranha 2, les tueurs volants. Il avait signé l'une des suites les plus mémorables et cultes avec Aliens, le retour, et s'était lui-même remis derrière l'histoire du Terminator pour un Terminator 2, le jugement dernier, tout aussi monumental. Mais il n'était jamais une seconde fois revenu lui-même sur l'une de ses créations. C'est donc le cas avec Avatar de feu et de cendre, 3 ans après Avatar la voix de l'eau, alors que nous avions attendu 13 longues années après la sortie d'Avatar premier du nom.
Regarde. Il n'est rien de plus pur en ce monde. Le feu est venu de la montagne pour brûler notre forêt. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Iwa n'en a eu que faire.
C'est reparti pour Pandora, où nous avions laissé la famille de Jack Sully dans la tristesse, puisque le fils prodigue de la petite troupe avait trouvé la mort alors que le colonel Quaritch se découvrait un grave problème de paternité avec son fils Spider et qu'il apprenait à devenir ce qu'il détestait le plus, à savoir un avis. Tout ce beau monde s'était entretué à contre-cœur, mais les enjeux n'étaient pas terminés. Il faut dire que la RDA n'a pas renoncé à coloniser la planète et à massacrer son écosystème pour ses richesses, et il faut ajouter à cela une nouvelle tribu de Navi, les Mangwan, menée par la redoutable Varang, interprétée par Ona Chaplin, fille de Géraldine Chaplin et petite-fille de Charlie Chaplin. Alors ce choix de casting fort est l'occasion pour James Cameron de graver un peu plus profondément son nom dans la légende du cinéma, lui qui, à l'image d'un George Miller, a su montrer qu'il était l'évolution logique, à la fois technique et esthétique, des pionniers du cinéma comme Chaplin, qui avait posé les bases d'une action visuelle découpée de manière fluide et menant vers un climax endiablé. Alors ce n'est pas le seul pont artistique et cinématographique que l'on peut noter dans ce troisième volet, puisque sans rien dévoiler, le roi du monde rend un hommage assez fou et émouvant à son mentor Stanley Kubrick et à son film préféré 2001, l'Odyssée de l'espace, auquel il faisait déjà un tout petit clin d'œil au début du premier volet avec sa station orbitale tournant sur elle-même. On note aussi une claire influence du cinéma indien que Cameron adore, et tout particulièrement celui de S.S. Rajamouli, l'auteur du génial RRR, auquel il répond en termes de démesure et d'iconisation de ses protagonistes devenus des métaphores déifiées de la lutte pour l'indépendance. Il est connu que ces deux réalisateurs s'apprécient beaucoup l'un l'autre et partagent la même vision dantesque et mythologique du récit, donc acte.
Habité par tant de haine.
de feu et de cendre à la difficile position de succéder à la voie de l'eau et de terminer un cycle qui sera continué de manière hypothétique avec un 4 et un 5 qui dépendront du succès de celui-ci. C'est donc une simili-conclusion, mais pas du tout définitive, qui est proposée pendant 3h15 de bruit, de fureur et d'émotions qui vont probablement un peu diviser. Au rythme plus posé du deuxième volet qui laissait le temps nécessaire au personnage d'évoluer, le troisième accélère le tout et nous entraîne dans une conclusion de plus d'une heure où tous les enjeux entremêlés vont se résoudre, mais parfois au détriment d'une respiration ou du développement de certains personnages. Le premier à en pâtir est étonnamment Varang, la nouvelle itération des peuplades Navi, sur laquelle s'était faite la promo, car, élément nouveau, c'est clairement une méchante. Varang est un personnage passionnant qui rappelle que, même si l'enrobage de Cameron est tributaire d'un aspect pulp revendiqué digne du grand Edgar Rice Burroughs, le papa de Tarzan et de John Carter, sa SF continue de commenter le monde et Varang permet d'avoir une réflexion riche sur la notion de résistance et d'intégrisme qui apporte la souffrance au lieu de la libération. Les deux qui, par contre, éclatent littéralement à l'écran, ce sont Quaritch et Spider, avec leurs destinées philosophiquement complexes qui atteignent ici leur point de rupture.
Non, non, Spider ! Nous trouverons un autre moyen. Votre divinité n'a aucune souveraineté ici.
De feu et de cendre est absolument grandiose, un grand spectacle immersif et émotionnel qui ne déçoit pas et bénéficiant d'une 3D renforçant encore plus la mise en scène sensitive d'un Cameron totalement maître de son univers. Peut-être trop rapide malgré ces 3h15 qui passent d'entrée, de feu et de cendre n'en reste pas moins ce que la SF peut nous offrir de meilleur. L'alliance du grand spectacle dépaysant et une réflexion d'autant plus pertinente à l'heure actuelle sur les différents conflits identitaires et de territoires qui gangrènent notre planète. Cameron a la solution. La famille est une forteresse et l'indépendance ne se négocie pas, elle s'affirme.
Eh bien, ce nouvel opus d'Avatar est en salle et ça nous donne l'occasion...
Dans beaucoup de salles même.
Oui, j'imagine, oui. Et ça nous donne l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie, très courte filmographie, parce que c'est moins de 10 films, James Cameron. Voilà, donc ça va être très très facile, évidemment. Le principe, on écoute un extrait, il faut trouver le titre, premier extrait.
Toute la vie est un jeu de chance.
Les vrais hommes créent eux-mêmes leur chance, Archie. N'est-ce pas, Dawson?
Et vous trouvez que cette sorte de vie sans attache est amusante, je présume?
Mais oui, madame, je trouve. Je veux dire, j'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. J'ai de l'air dans mes poumons et quelques feuilles blanches pour travailler. J'adore me lever le matin sans savoir ce qui va m'arriver. Qui je vais rencontrer? Où je vais échouer? Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie. Je vais en reprendre. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher. On ne sait pas quel don on aura le coup suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient. Oh, tenez qu'un. Pour que chaque jour compte.
Bien dit, Jack.
Tout à fait.
Pour que ce jour compte.
Pour que ce jour compte.
C'est trouvé.
C'est Titanic.
Eh oui.
97.
Eh oui, le grand succès de James Cameron avec Leonardo DiCaprio, qu'on entend la voix française en tout cas. Ce drame historique retrace le voyage inaugural du Titanic et le naufrage qui a marqué l'histoire maritime. 20,6 millions d'entrées pour ce film qui met en scène la rencontre de deux passagers issus de milieux sociaux différents.
Oui, et donc 20 millions d'entrées, mais il y a aussi eu des ressorties, et j'ai envie de parler de celle en 3D, qui est loin d'être un gadget, parce qu'elle était vraiment faite à coût de millions de dollars, vraiment supervisée par L'Oréal, c'est pas juste un gonflage pour gonfler les recettes, et si vous trouviez déjà que la partie à l'intérieur du bateau qui coule était claustrophobique, croyez-moi, dans une salle de cinéma en 3D, c'est littéralement cauchemardesque, donc n'hésitez pas si vous pouvez l'avoir.
Et voici un deuxième extrait de ce blind test consacré à James Cameron.
La série précédente avait une peau synthétique. Ils étaient faciles à repérer. Mais pas lui. Il est comme un être humain. Il transpire, parle même comme toi et moi. On s'y tromperait. J'ai dû attendre qu'il attaque avant de pouvoir le repérer.
Écoute, j'ai peut-être l'air stupide, mais des êtres comme ça, ça n'existe pas encore.
C'est vrai. Pas avant 40 ans.
Tu veux dire qu'ils existeront dans le futur?
Dans un futur qui dépend de toi. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer.
Tu vas aussi prétendre que tu es un homme du futur.
Exact.
C'était extrêmement facile.
C'était le premier Terminator de 84.
Et oui. Dans un futur où l'intelligence artificielle domine, un cyborg est envoyé dans le passé pour éliminer la mère du futur leader de la résistance humaine. Le film combine action et science-fiction pour exposer les conséquences d'une technologie hors de contrôle. 3 millions d'entrées en France pour ce film de 85. Nouvel extrait pour trouver un titre de James Cameron.
Qu'est-ce que c'était cette piqûre ?
Sodium amytal. Ou n'importe quelle autre somme de vérité.
Ça veut dire que tu dis la vérité? Et ça marche?
Pose-moi une question à laquelle normalement je mentirais.
Est-ce qu'on va mourir?
Ouais.
Ben oui, ça marche.
Ils vont nous tirer une balle dans la tête ou nous torturer à mort.
D'accord.
Ou ils vont nous laisser ici jusqu'à ce que la bombe fasse tout...
Tu es un espion depuis combien de temps, Harry?
17 ans.
Alors, pour toi, grand connaisseur de James Cameron, c'était facile.
C'était True Lies, 94. C'était son simili James Bond extrêmement musclé.
Oui.
Et les gens ne le savent pas forcément, c'est un remake de La Totale de Claude Zidi.
Eh oui, 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 effectivement. Alors, film sorti en 95 en France, en revanche. L'histoire suit un agent secret dont la double vie est menacée lorsque ses missions professionnelles et sa vie familiale se croisent. Le film mêle espionnage, action spectaculaire et comédie. C'est 1,8 million d'entrées en France pour ce film. Nouvelle extrait à écouter, il faut trouver un film de James Cameron.
Tout ce que je veux dire, c'est que quand on est pendu par les ongles, on ne se met pas à gesticuler.
Écoute, j'ai vu quelque chose, je ne vais pas revenir.
Chut, je n'ai rien vu pour te faire plaisir, désolé. Je t'en prie.
T'es vraiment la plus grande tête de mule que j'ai jamais connue.
Oui, je suis une tête de mule. Il faut absolument que tu me crois pour l'instant. Alors maintenant, regarde-moi, s'il te plaît. Je te parais stressée, est-ce que j'ai les symptômes d'une maladie nerveuse, des difficultés à m'exprimer, la tremblote?
Non.
Non. Bud, c'est moi, Lindsay, ok? Tu me connais mieux que n'importe qui au monde. Alors, regarde mes lèvres. J'ai vu ces choses. J'en ai touché une de la main. Et ce n'était pas un truc en acier comme on construirait.
Trouvé.
C'est Abyss, 89.
Oui, avec Ed Harris notamment. Une équipe de forage sous-marine découvre une forme de vie extraterrestre. Le film explore la survie en milieu hostile, les relations humaines et la confrontation avec l'inconnu sous les océans. 1,9 million d'entrées pour ce film. Oscar des meilleurs effets visuels. À noter qu'il avait déjà fait pour ce film un grand bassin pour tourner toutes les scènes sous-marines, évidemment. Dernier extrait de ce blind test.
Vous m'avez envoyé au massacre et maintenant vous voulez me réexpédier là-bas? Pas question, c'est plus mon problème.
Je peux finir?
Non, laissez tomber.
Ripley, vous ne serez pas mêlé au combat. Je garantis votre sécurité.
Vous savez, ces marines coloniaux sont tout sauf des amateurs. Ils ont les armes les plus sophistiquées du marché. Avec eux, on peut être tranquille. Lieutenant, c'est pas vrai?
Mais oui, mes hommes sont entraînés à ce genre de situation.
Alors allez-y sans moi, j'aime pas jouer aux soldats.
Alors c'était la voix française de Sigourney Weaver.
Et c'est qui reprend son rôle de Ripley pour Aliens, le retour,
oui.
Qui personnellement je préfère, sacrilège, au film de Ridley Scott.
On aura... Chacun fait son choix entre les quatre. Plusieurs décennies donc après le premier contact avec l'alien, une équipe militaire est envoyée sur la colonie affectée pour éradiquer les créatures. Il y a du suspense, beaucoup d'action quand même. Voilà pour ce film qui a réuni 1,7 million de spectateurs en France. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré à la filmographie de James Cameron, puisque nous parlions de Avatar. Rob Reiner est décédé tragiquement il y a quelques jours. Ça fait un petit moment que tu veux nous parler de Spinal Tap 2 et tu n'as pas pu parce qu'on avait un sommaire trop conséquent, mais c'est cette fois-ci l'occasion d'en parler.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et autre signe de la tristesse infinie que propose le traitement d'œuvres hors normes condamnées à n'être vues et donc digérées, oubliées au plus vite, que sur les plateformes, bah, Spinal Tap 2, hein, The End Continues, est sorti depuis le 3 novembre et personne n'est au courant. Hein. On parle quand même de la suite, hein, certes tardive, de la cultissime comédie V6 Spinal Tap de Rob Reiner, sortie en 1984. Alors Spinal Tap, un documentaire qui mettait en scène un faux groupe de heavy metal à qui il arrive pique-pendre, hein, entre stupidité, accident et moments plus touchants, était un concentré d'humour déjanté et aussi finement interprété que brillamment écrit et qui allait devenir un vrai phénomène de société, inspirant vrai concert et innommable copie dans le monde, les nuls en tête d'affiche. 40 ans après, Rob Reiner, enfin Marty Debergui, hein, revient aux affaires en se posant la question légitime du « que sont-ils devenus ?» La réponse va vous étonner. Alors on vous laisse voir le film, hein, pour savoir comment le temps est passé, hein, pour David, Nigel et Derek, hein, mais on se doute que ce qui va les remettre en selle, bah, c'est bien évidemment une réunion nostalgique du groupe, hein, sur scène, comme l'est évidemment ce film. Alors concept méta suffisamment bien huilé pour fonctionner, Spinal Tap 2 montre, hein, que l'âge ne peut pas enterrer le rock'n'roll et son trio toujours aussi soudé, hein, et doué quand il s'agit d'improviser. Alors la grande nouveauté est de faire exister ces dinosaures dans une époque qui est aux antipodes de ce qu'ils ont connu et de la gloire d'antan, hein, ce qui est pertinent dans une époque qui momifie ces vieilles stars en les canonisant mais en leur refusant toute nouveauté artistique, alors que dans le milieu du rock, la philosophie dirigée, hein, par la passion est celle de mourir sur scène. Alors oui, hein, on n'a pas d'équivalent culte aux célébrissimes potards poussés jusqu'à 11 ou aux batteurs qui meurent tous de manière improbable, mais Rob Reiner montre suffisamment de métier, après tout, hein, rappelons que Spinal Tap 1 était son premier film, pour nous faire sourire tout du long sans temps mort.
Ce Spinal Tap 2 est en VOD. Parlons maintenant de livres à pourquoi pas acheter avant Noël ou même après.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
On débute avec Les Mâchoires de la Peur, les coulisses d'un tournage mythique, retour sur un tournage mythique pour un film qui a bouleversé l'histoire du cinéma, Jaws soit les dents de la mer, réalisé par le tout jeune Steven Spielberg. Le réalisateur américain, alors âgé de 27 ans, n'avait tourné que Sugarland Express. Alors ce tournage qui s'est déroulé de mai à septembre 1974 est l'objet d'une BD de Tony Cittadini et Jérôme Wibon. Je suppose. L'album retrace donc l'été 74 sur l'île de Martha's Vineyards où le jeune Steven Spielberg tente de tourner son film de monstre marin. Le livre documente le chaos technique avec les fameux requins mécaniques, hein, qui peuvent couler et tomber en panne, les relations électriques entre certains acteurs, notamment entre Robert Shaw et Richard Dreyfuss. Il y a aussi les interrogations comme les confessions ou ajustements de Spielberg qui jouaient gros, hein, sur ce film. L'on voit aussi comment la difficulté de certaines prises a forcé Spielberg à modifier son film pour le rendre encore plus fort en créant la suggestion. A noter que le dessinateur a fait le choix d'une monochromie au ton bleu, bleu comme la mer évidemment. Alors on ressort de l'ouvrage avec beaucoup de connaissances sur ceux qui ont contribué au succès de ce film qui est devenu l'exemple typique du blockbuster de l'été. Il y a le réalisateur mais également tous ceux qui élaboraient les décors comme les patrons du studio Universal qui ont toujours soutenu Spielberg en qui ils voyaient quelqu'un de prometteur et ils ont eu plutôt raison. Le coût du tournage est passé de 4 millions à 12 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, et le tournage était prévu pour durer 55 jours, il a finalement duré 159. Voilà. Donc cette BD, Les Mâchoires de la Peur, est disponible dans les meilleures librairies. Parlons maintenant d'une histoire de cinéma, le livre illustré des 130 ans du 7e art. Si on part du principe que le cinéma a débuté avec la première projection publique du cinématographe Lumière le 28 décembre 1895, ça veut dire que le 28 décembre 2025, eh bien, nous aurons vécu 130 ans de cinéma. Cet ouvrage de Mélanie Toubeau fait quelques 220 pages et couvre les inventions qui ont fait avancer le cinéma, du noir et blanc à la couleur, du muet au parlant, comme les lieux tels le Cinecittà en Italie ou évidemment Hollywood, et puis une grande majorité de personnes. Il y a surtout alors des réalisateurs et réalisatrices, mais il y a aussi des monteurs, des producteurs. Pour chaque choix, l'autrice consacre 4 pages avec du texte, des dessins et parfois des photos. Alors il s'agit d'un ouvrage léger, agréable. Nous avons posé quelques questions à son autrice, Mélanie Toubeau.
This is Cinérama.
Bonjour, Mélanie Toubeau.
Bonjour.
Les livres sur l'histoire du cinéma sont nombreux. En quoi votre livre se distingue-t-il, selon vous, des nombreux ouvrages déjà consacrés à l'histoire du cinéma ?
J'ai grandi en lisant des livres sur l'histoire du cinéma. J'ai eu tous les Larousse, tous les condensés qu'il y a eu. Et quand je les lisais, pour moi, soit ils racontaient trop de choses, soit pas assez. Mais ils racontaient pas en tout cas ce que je cherchais dans l'histoire du cinéma, ce qui veut dire une sensibilité, une poésie, et surtout des personnes fortes qui ont vraiment impacté le cinéma. C'était toujours trop ou pas assez. Et j'ai essayé, en tout cas moi, avec ce livre-là, de raconter les choses assez justement, en tout cas j'ai essayé, assez justement pour faire, on va dire, un état des lieux de c'est quoi l'histoire du cinéma, d'où il vient, pourquoi on en est là aujourd'hui avec cette histoire-là. Voilà. J'ai voulu en tout cas qu'il se distingue de cette manière-là et j'espère en tout cas que ça fonctionne au mieux.
Votre ouvrage est composé d'événements, d'inventions, mais majoritairement de personnalités, dont une pléiade de réalisateurs et réalisatrices. C'était important d'incarner l'histoire du cinéma au travers d'individus.
Pour moi, le cinéma, c'est avant tout des individus, puisque c'est grâce à eux qu'on a ces événements, c'est grâce à eux qu'on a ces inventions. Mais c'est surtout des gens, et des gens, justement, ce ne sont pas que des personnalités, ce sont aussi des êtres avec tout ce qu'ils ont de bon comme de mauvais. Une chose que j'ai quand même essayé de retranscrire à travers le livre, c'est que malgré la fascination qu'on peut avoir pour certaines personnes qui ont fait de grandes choses pour l'histoire du cinéma, ce ne sont pas forcément de bonnes personnes aussi. Le cas, par exemple, de Leni Riefenstahl, qui était donc une cinéaste nazie, qui a fait de grandes choses, puisque c'est grâce à elle qu'on a vraiment inventé la captation sportive, mais qui est restée quand même soumise au régime nazi. Et je trouve que c'est très important de recontextualiser et de ne pas juste dire « Ah, c'était bien ce qu'ils ont fait ». Il faut aussi parler des personnes en tant que telles. Et effectivement, pour moi, les individus sont importants avec tout ce qu'ils ont pu faire. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a leur biographie pour comprendre d'où ils viennent et où est-ce qu'ils en sont arrivés, où est-ce qu'ils en sont encore maintenant, parce que certains sont encore vivants. Et je trouve que c'est important de créer tout un écosystème autour d'eux, vraiment de les replacer dans le contexte. C'est en tout cas comme ça, moi, que je vois l'histoire du cinéma.
Vous évoquez le fait que l'histoire du cinéma a souvent mis en avant certaines personnalités au détriment d'autres. Vous avez vraiment tenté de rééquilibrer cela dans votre livre ?
Effectivement, à force de lire des livres sur le cinéma, sur l'histoire du cinéma, j'avais l'impression, ou je pense que c'est même tout simplement le cas, de revoir toujours les mêmes noms. Après, parce que c'est grâce à ces personnes-là qu'effectivement le cinéma existe, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'invisibilisation. De toute façon, on s'est bien rendu compte ces dernières années, par exemple, que Alice Guy, qui est la vraiment première réalisatrice, même la première réalisatrice, pas que femme, tout court, avait été invisibilisée au profit d'hommes à qui on avait attribué son travail. Pour moi, c'était très important justement un peu de redistribuer les cartes et de dire que ce ne sont pas les noms dont on a l'habitude de voir dans tous les livres qui ont fait le cinéma. C'est en fait, il y en a beaucoup d'autres et je pense que j'en ai oublié énormément. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire la part belle à toutes les personnes qui, en tout cas pour moi, ont fait l'histoire du cinéma et de manière, oui, effectivement, assez équilibrée.
Votre déclic remonte à un exposé de lycée à la découverte de Georges Méliès. Le réalisateur incarne pour vous l'émerveillement et la magie. Pensez-vous que cette dimension s'est un peu perdue dans le cinéma contemporain ?
Georges Méliès, c'est celui qui m'a fait aimer le cinéma, c'est celui qui m'a fait découvrir à quel point en fait, le cinéma n'est pas juste des films qui passent sur grand écran, mais une industrie, des gens, de la magie, une imagination. Enfin, c'est tellement de choses à la fois, c'est complexe, c'est multiple, c'est simple aussi, mais c'est beaucoup de choses. Et actuellement, je ne pense pas qu'il y a une perte, je pense que en fait, il y a tout évolue à sa manière et j'ai envie de croire que justement cette magie qu'a insufflé Méliès au début du cinéma en reprenant ses tours devant la caméra, je pense que justement ça ne se perd pas parce qu'on a toujours ce moment absolument dingue, cette fameuse suspension consentie d'incrédulité de Coleridge qui est ce moment où on accepte ce qu'on est en train de voir, que ok c'est magique et je l'accepte. Ça, je pense qu'on le doit à Méliès et qu'on l'a toujours. Que pas forcément tout le monde l'a, bien sûr, mais en tout cas, que le cinéma offre cette magie-là et qu'elle l'offrira toujours et que c'est ça la force de cet art. Et qu'effectivement, on le doit à des personnes comme Méliès, mais c'est... J'y crois toujours, j'ai envie d'être positive et de me dire que c'est la magie, elle sera toujours là. Et c'est pour ça qu'on aime tant le cinéma.
Une histoire de cinéma, le livre illustré des 130 ans du 7e art. C'est 224 pages, 35 €, et c'est en librairie.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine avec la dernière émission de l'année. Ce sera l'occasion de jouer à un grand blind test sur les films de 2025. À la semaine prochaine.